Merci. Différence entre management et leadership. Oui, il était nécessaire, il était nécessaire de marquer cette différence entre le manager et le leader. En d'autres termes, il y a Peter Drucker, un gourou du management, Peter Drucker, qui disait que le leadership, c'est faire les bonnes choses, tandis que le management, c'est bien faire les choses. Le leadership, c'est faire les bonnes choses. Et le management, c'est bien faire les choses. En d'autres termes, il ne sert à rien de bien faire les mauvaises choses. N'est-ce pas? On peut bien faire les mauvaises choses, ce qui est inutile. Donc, il faut bien faire les bonnes choses. Commencer par le leadership, définir les choses à faire. Donc, c'est faire les bonnes choses, les bons choix, la vision. Et ensuite seulement, on peut parler de management. Donc, bien faire les choses, c'est-à-dire la mise en œuvre de notre vision. Donc, dans un projet, c'est pareil. Donc, l'idée, vous devez la mûrir, avoir votre business plan avant de commencer à mettre en œuvre. C'est ce qu'on a dit aussi par rapport à l'image de la course. On ne commence pas une course tant qu'on n'a pas fixé la ligne d'arrivée. Parce que peut-être que vous ne savez pas qu'il faut courir vers l'avant, peut-être même qu'il faut courir vers l'arrière, je ne sais pas. Mais il faut au moins fixer la ligne d'arrivée avant de commencer à courir. Ok, what else? Quoi d'autre? Quelqu'un d'autre peut nous dire? Oui, là?
Ce qui m'a aussi beaucoup frappé, c'est la différence entre un entrepreneur et un investisseur. Or, auparavant, moi, j'avais toujours le problème pour faire des choses, bien faire des choses, il faut toujours avoir de l'argent, alors que l'essentiel, c'est d'avoir des idées, donc entreprendre.
Merci. C'est un élément très important aussi de ce qu'on a vu hier, effectivement, la différence entre l'investisseur et puis l'entrepreneur. L'investisseur a de l'argent, il n'a pas forcément des idées, il attend des opportunités et il veut les saisir pour pouvoir investir son argent et puis se faire un bénéfice. Alors que l'entrepreneur, lui, il a des idées, il n'a pas forcément de l'argent, mais s'il a des idées, il peut trouver l'argent. Ça, c'est bien noté aussi. C'est très bien. Oui, juste à côté.
Ce qui m'a aussi frappé personnellement, c'est quand on a appris que tout le monde peut être leader, qu'il y a seulement les moyens, la façon, la potentialité qu'il faut travailler.
Tout à fait. Tout le monde, au départ, a le potentiel d'être un leader. Vous savez, j'ai une autre définition de leadership que j'aime bien qui dit que le leader, c'est un homme ou une femme responsable. Bon, avant, on disait que c'est un homme responsable avec grande tâche. Mais maintenant, avec le gender balance, on est obligé de dire un homme ou une femme. Un homme ou une femme responsable. Et dans la définition de responsable, c'est surtout en anglais que c'est plus facile à voir. Responsibility, c'est ability to give responses. Je ne sais pas si vous voyez, ability, à la fin de responsable, to give responses. Autrement dit, créateur de solutions. Donc le leader, c'est ça. C'est celui qui trouve les solutions. C'est celui qui est capable. C'est celui qui est responsable, qui est capable, qui a les habiletés à trouver des réponses, à trouver des solutions. Vous savez, bien souvent, nous sommes des créateurs de problèmes plus que des créateurs de solutions. On est très prompt à dire, il y a ceci qui ne va pas, il y a cela qui ne va pas, dans mon pays, rien ne va. Rien ne va. On dit rien ne va. Alors qu'on se lève tous les matins, on a à manger, on va travailler, on dit rien ne va. Vous voyez comment on peut être pessimiste? Rien ne va. Donc, c'est vrai que tout le monde peut être leader parce que tout le monde peut être responsable, tout le monde peut créer des solutions, tout le monde peut trouver des solutions. Mais ce peu-là, c'est le potentiel. Il faut le développer. Il faut le développer. Il faut l'amener à manifestation. Merci.
Et ce qui m'a frappé beaucoup, c'est penser au point de vue, si X étant de la vie de quelqu'un, le trait d'union d'une personne, sans toutefois penser, si je programme jusqu'à 2040, est-ce que je serai en vie ou pas? Ça nous a beaucoup enseigné. Merci.
Ok, merci. Anticiper sa mort. Oui, faut anticiper sa mort, en fait. Il faut effectivement anticiper la fin, puisque vous connaissez le début. Et alors, vous allez mesurer qu'est-ce que vous voulez que le trait d'union entre le début de votre vie et la fin de votre vie sur terre, là. Qu'est-ce que vous voulez que ça signifie? Quelle est la signification de ce trait-là? Parce que, après tout, dans le monde, quand on va sur votre tombe, c'est ce qu'on voit.
Pour être utile, pas pour chercher l'argent, mais pour être utile. Quand vous avez parlé de la naissance et de la mort, l'intervalle entre la naissance et la mort, je crois que pour en être aimé de Dieu, comme ça a été dit, des êtres, vous avez dit que nous étions des êtres spéciaux, que nous étions un peuple choisi, sacerdoce royal. Donc nous devions prendre cette occasion, cette opportunité que Dieu nous a donnée, c'est en fait un privilège d'être utile pour cette longueur entre la naissance et la mort. Alors les affaires ou l'argent doivent nous suivre. Nous, on ne doit pas courir derrière l'argent. C'est ce que j'ai compris. Hein? On ne doit pas courir derrière l'argent. L'argent doit nous courir après. C'est comme les bénédictions. Parce que nous sommes tout naturellement bénis. Donc, les affaires que nous faisons, c'est pour être au service des autres. Et en étant au service des autres, évidemment, il y a des retours. Merci.
Oui, merci. Aujourd'hui, on va parler, je vais insister sur le leadership de service. Vous allez voir que les meilleures idées, c'est celles qui servent. Parce que, et le plus grand leader, la taille ou la valeur de votre leadership se mesure par le nombre de personnes que vous servez, mais pas par le nombre de personnes qui vous servent. Est-ce que vous voyez la différence? La valeur de votre leadership se mesure par l'impact que vous avez, le nombre de personnes que vous servez, pour qui vous êtes utile, pas par le nombre de personnes qui vous servent. C'est ce qu'on confond. On confond souvent la position et le leadership. Le rôle que nous avons et notre leadership. Vous allez voir que les meilleures idées sont celles qui servent. Les plus grands leaders, c'est ceux qui impactent, qui servent le plus grand nombre de personnes. Ce n'est pas ceux qui ont le plus grand nombre de personnes à leur service. Très différent.
Je voudrais que vous puissiez spécifier un tout petit peu la différence entre la perception et la vision.
Merci. C'est une question très pertinente. Alors, la perception, c'est votre manière de voir les choses. Ce que j'appelais perception. Ce sont vos croyances qui vous guident dans la manière d'analyser les situations. C'est pour ça qu'on a essayé de faire cet exercice. On a fait cet exercice où vous avez été conditionné pour voir une certaine image. Et ayant été conditionné, votre perception a changé. Mais justement, la perception est à l'origine de la vision. On va beaucoup plus voir la vision aujourd'hui. La perception est à l'origine de la vision. La manière dont vous voyez le monde, dont vous voyez les choses, c'est comme ça que vous allez avoir une vision. Parce qu'une vision, c'est quoi? C'est une image de l'avenir. Quelque chose qui n'est pas encore. C'est une image de l'avenir que vous avez. Une image de l'avenir par rapport à ce que vous vouliez que le monde soit. Par rapport à votre désir que le monde soit. Ça, c'est la vision. Mais c'est la perception qui est à l'origine de la vision. Comment je vois les choses, je dois déterminer ma vision. Comment je me vois moi-même, va déterminer ma vision. Il y a une citation que j'aime bien qui dit que tout le monde croyait que c'était impossible. Puis vint un imbécile qui ne le savait pas et qui l'a fait. Les gens intelligents, comme nous autres là, on dit non, c'est que c'est impossible, c'est pas possible ça. Et lui, il est venu, imaginez une porte qui est là. Et tous les gens intelligents, ils voient, oh, bon, la porte, c'est sûr que c'est fermé, c'est impossible. Et quelqu'un vient, il fait comme ça, ça s'ouvre. Et puis il rentre. Il ne savait pas que c'était impossible et il l'a fait. Donc notre perception là, ça nous limite. Nos croyances, notre éducation, notre passé, ça nous limite et ça nous dit que non, c'est impossible, c'est pas possible, c'est pas possible. Et quelqu'un qui est en dehors de cet environnement, il vient et il réussit. Et il réussit. En comparaison avec l'éternité, ma vie est comme une seconde. Mais la manière dont je vais gérer cette seconde-là, ma vie-là, va influencer mon éternité. Il faut qu'on sache ça. C'est pour ça qu'on doit être, des gens d'impact, hein, des gens qui vont influencer notre environnement. Il faut que quelqu'un puisse dire un jour de nous, waouh, quand j'ai rencontré cela, un jour, il a fait quelque chose pour moi. Vous savez, moi, je porte le nom. Ézéchiel, c'est le nom du meilleur ami de mon père, d'un des meilleurs amis de mon père. Et c'est celui qui a annoncé l'évangile. Il s'appelait Ézéchiel. Et il a dit vraiment, en souvenir de celui qui m'a apporté l'évangile, je vais appeler mon premier fils Ézéchiel. C'est comme ça que je m'appelle Ézéchiel. Donc, je sais d'où vient mon nom. Je sais qu'un jour dans la vallée, un de mes homos, de mes illustres homonymes, a parlé la parole de Dieu. Hein? Alors la vision, c'est quoi? C'est le but de votre vie, dans le leadership personnel. Je précise, hein, pour un individu, à l'échelle d'un individu, ce qu'on appelle la vision, c'est le but de votre vie. Donc c'est ce que vous voulez atteindre à la fin de votre vie sur terre. Le but de votre vie, ça c'est la vision. Et en d'autres termes, en tant que chrétien, on définit ça comme la révélation du futur que Dieu veut créer à travers vous. La révélation du futur que Dieu veut créer à travers vous. On peut faire une formation de 5 jours sur la vision. Malheureusement, je vais résumer ça. Peut-être on aura d'autres occasions de faire une formation sur la vision ou le leadership personnel. Parce que c'est très important, c'est le point de départ de tout grand leader, c'est d'avoir une vision. Quand vous ne savez pas où vous allez, peu importe les moyens que vous avez, peu importe les ressources que vous avez, peu importe les qualités, les potentiels que vous avez, ça ne sert à rien si vous n'avez pas un but. Je ne sais pas ceux qui se souviennent un peu de leur physique, hein, de la physique. On parle de force. Hein, une force, c'est dans un mouvement. S'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de force. La force n'a pas de sens s'il n'y a pas de mouvement. Il faut vraiment un sens, quelque chose qui donne la direction. C'est ça qui donne la force ou la puissance à la force. Parce qu'il y a une direction. Une direction. Une force se meut dans une direction. Quand on dit être mobilisé, c'est dans une direction. Vous voyez, c'est la différence entre la motivation et la mobilisation. La motivation, vous pouvez avoir un motif, c'est-à-dire une raison. Mais si vous n'avez pas le mobile, vous ne pouvez pas être mobilisé. Des gens ont le motif, ils sont sur place. Mais quand vous avez le mobile, vous bougez. Vous vous déplacez. Vous allez dans un sens. Vous commencez à agir. Maintenant, au-delà de la vision, comment faire pour réaliser la vision? C'est à travers les missions. Ce sont les activités à mener pour atteindre votre vision. Et maintenant, les valeurs, c'est quoi? C'est le socle qui soutient votre vision. Ça veut dire que votre vision doit être basée sur des valeurs qui vous sont intrinsèques. Intrinsèques, ça veut dire quoi? Qui sont collées à vous, qui n'ont rien à voir avec l'environnement, qui n'ont rien à voir avec la situation, qui n'ont rien à voir avec le moment. Parce qu'il y a des gens qui ont des valeurs, quand tout va bien, quand ils ont l'argent, ils ont certaines valeurs, quand ils deviennent pauvres, ils ont d'autres valeurs. Ça, c'est pas des valeurs. Les valeurs, c'est quelle que soit la situation, quel que soit l'environnement, quel que soit le moment, vous gardez ces valeurs-là. Ça, ce sont les valeurs. Et alors, votre vision doit être basée sur les valeurs. J'ai fait un schéma ici. Next. J'ai fait un schéma ici qui explique ça un peu plus. Le socle là, le socle, c'est-à-dire la fondation de votre vision, de votre leadership même, ce sont les valeurs. Un leader est reconnu par ses valeurs. Si on ne peut pas reconnaître des valeurs en vous, vous n'êtes pas encore un leader. Si vous-même, vous n'êtes pas capable de reconnaître des valeurs en vous, vous n'êtes pas un leader. Et basé sur ces valeurs, vous allez déterminer une vision. Donc, un but final à atteindre. Je suis là, je me base sur mes valeurs, je détermine le but final à atteindre et les activités, c'est ce que je vais faire entre les deux. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire pour atteindre ma vision? La vision, c'est important. Et je dis plus haut que la vision, c'est la révélation du futur que Dieu veut créer en nous. Dieu nous a fait co-créateur du monde avec lui, n'est-ce pas? Co-créateur, il nous a donné la mission de gérer ce monde. Il a mis son image en nous. Il nous a rendu des leaders potentiels. Maintenant, il nous révèle en nous le futur qu'il veut créer à travers nous. C'est ce qu'on appelle en anglais « your life purpose », le but de ta vie. Et il nous appartient à chacun de découvrir ça. Parce que c'est en ce moment que vous allez marcher en toute plénitude et en toute révélation, en tout déploiement de votre potentiel. Quand vous allez découvrir le but de votre vie. La question que vous allez me poser, comment? Comment découvrir le but de sa vie? Ça, c'est une bonne question. J'ai fait cet exercice. Aujourd'hui, moi, je suis en totale cohérence avec ce que je fais. Parce que j'ai fait l'exercice de découvrir qu'est-ce que vraiment est le but de ma vie. Je vais vous donner des fiches, deux pages pour un exercice à la fin de cette formation, qui vont vous aider à découvrir le but de votre vie. Des fiches d'exercice, on ne pourrait pas le faire, mais là, dans les formations, je le fais directement. Mais là, je vais vous donner des fiches, qui sont des exercices, vous allez vous poser des questions. Posez des questions sur votre passé. Questionnez votre passé. Parce que votre vie est une préparation à pouvoir accomplir le but de votre vie. Et donc, vous allez vous poser des questions sur votre passé, les expériences que vous avez vécues, les échecs, les succès. Tout ça, ce sont des signes. Ensuite, vous allez vous questionner sur votre présent. Aujourd'hui, vous êtes dans quelle situation? Quel est votre potentiel aujourd'hui? Ensuite, vous allez vous poser des questions par rapport à votre futur. Mais dans tout ça, vous devez à un moment donné ressentir un besoin. Ressentir une conviction que c'est ça que vous voulez faire. Vous savez, parfois nous sommes tellement conditionnés par notre éducation. Ok, j'ai appris à faire les mathématiques ou je ne sais pas, j'ai appris à faire la gestion. Je veux continuer en gestion. Bon, je n'ai pas le choix. Nakundi, vraiment. On a toujours le choix. Nous sommes même la somme de ces choix. Notre vie est la somme des choix que nous faisons. N'est-ce pas? Notre vie est la somme des choix que nous faisons. On a toujours le choix. Nous sommes même la somme de ces choix. Vous êtes ici par choix. N'est-ce pas? Vous avez vu une publicité? Personne ne vous a obligé à venir. Vous avez choisi de venir. Ok, vous avez payé votre inscription. Mais vous êtes ici aussi. Malgré que vous avez payé votre inscription, vous avez fait le choix de venir. Vous avez décidé de venir et d'être là. La vie, c'est une question de choix. Hein? On a toujours le choix. Alors, je vous donne quelques suggestions. 37. Quelques suggestions. Comment connaître le but de votre vie? 37. Quelques suggestions là-dessus. C'est, en tant que chrétien, vous devez savoir regarder à Dieu. Savoir regarder à Dieu. Quand vous allez faire cet exercice, je vais vous demander, de toute façon, il y a les instructions dans la fiche. Il faut vous mettre à l'écart, dans un moment où vous pouvez ne pas être dérangé. Et puis réfléchir. Et demander l'inspiration de Dieu. Et quand vous allez regarder à Dieu, vous allez demander à Dieu, qu'est-ce que vraiment je peux faire? Quel est le but de ma vie? Pourquoi est-ce que j'ai été créé? Ensuite, il faut que vous regardiez autour de vous. Parce que vous êtes dans ce monde. Il faut regarder autour de vous pour découvrir les besoins des gens, pour découvrir les ressentiments des gens, pour découvrir le manque des gens. Parce que si vous devez venir en solution, une solution vient pour résoudre un problème. Il faut découvrir ce problème. Alors, il faut savoir regarder autour de vous. Regardez autour de vous. Il y a toujours des besoins insatisfaits autour de vous. Il y a toujours des besoins de faire quelque chose autour de vous. Et ensuite, vous regardez en vous. Quand vous allez regarder autour de vous, vous allez sentir quelque chose. Mais il y a tellement de besoins. Pour maintenant voir quel est le besoin qui touche votre cœur, qui fait bouger votre cœur, vous regardez en vous. Pour voir quel est le besoin qui correspond à ce que moi je veux faire. En quoi est-ce que moi je peux résoudre tel ou tel besoin? En quoi est-ce que je peux être impactful? Ici, vous voyez ça? Vous regardez encore autour de vous. Et vous allez voir, est-ce qu'il y a une cohérence entre ce que vous ressentez, ce que vous avez vu, ce que vous ressentez et ce que vous voyez de nouveau. Et là, vous allez comprendre, vous allez avoir une conviction. Moi, le but de ma vie, c'est de convaincre tout le monde qu'il peut vivre heureux, avec une attitude positive, whatever, wherever, whenever. C'est-à-dire qu'on peut être heureux quelle que soit la situation. Ça, c'est le but de ma vie. Alors, j'ai essayé de voir les activités qui correspondent. Pour faire ça, ok, je peux faire plusieurs activités. Je peux donner des séminaires payants. Je peux donner des conférences, des séminaires non payants pour les étudiants, les élèves, ce que je fais. Je peux faire raconter des histoires aux enfants, ce que je fais. Je peux créer un site web. Je fais créer un site web qui s'appelle TousLeader, www.tousleader.com. Je peux créer un site web pour partager mes idées avec les gens. D'abord, j'ai créé un blog. Ensuite, j'ai créé un site web. Mais tout ça, c'est des activités que je fais dans le but de partager ma conviction que l'on peut vivre heureux, quelle que soit la situation, en menant sa vie par la grâce divine. Parce que j'ai ressenti ce besoin-là. Parce que j'ai trop souvent entendu les gens, les Africains dire « On ne peut pas, on est incapable. » J'ai trop souvent entendu les gens se complaire et accepter la situation. Quelque chose m'a marqué dans ce pays, il faut que je vous le dise. J'étais ici quand les obus sont tombés sur l'Annonciature, en avril. C'était en avril, quand les obus sont tombés sur l'Annonciature. Alors, pour moi, le lendemain, il y aurait ville morte. Le lendemain, je vois les Burundais, les Bujumburalais qui se baladent tranquillement et qui font leurs activités. Je regarde, je dis, waouh, comment on peut s'habituer à la guerre? Je vous assure. Parce que d'abord, moi dans mon pays, pour voir une Kalachnikov, il faut aller dans une caserne. Les policiers, ils ont des pistolets automatiques, des PA. Parce que les Kalachnikovs, c'est des armes de guerre. Donc déjà, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ok, ça peut aller. J'ai même rencontré une fois un char à Bujumbura. J'ai dit, oh, rencontrer des chars à Bujumbura. Non. Il faut qu'on ressente, parce que parfois, on devient tellement insensible. Et on trouve cela normal. N'est-ce pas? On devient insensible. Il faut que nous soyons sensibles, qu'on révèle notre sensibilité. Maintenant, je vais vous expliquer un peu. Il y a des gens qui ont des visions, qui reçoivent des visions de Dieu de manière spectaculaire. N'est-ce pas? De manière spectaculaire. Quand on regarde dans la Bible, on voit des gens qui ont reçu des visions de Dieu de manière spectaculaire. Moïse, c'était à travers le buisson ardent. C'était de manière spectaculaire. Paul, il a été frappé. De cécité. Il était devenu aveugle. Et il a eu sa vision. Plein de gens. Joseph, il a eu un rêve. Abraham, Dieu lui a apparu en songe. Tous ces gens. Mais regardons les autres. La plupart d'entre nous, on a notre vision de manière naturelle. Parce que Dieu, il est à la fois surnaturel et naturel. N'est-ce pas? C'est Dieu qui a créé la nature humaine. Il ne faut pas qu'on essaie de voir, d'avoir des visions spectaculaires, d'être renversé et de se lever maintenant pour dire « Waouh, j'ai vu, j'ai eu un songe, j'ai une révélation. » Ça peut arriver, Dieu peut nous faire avoir ça. Je crois en ça. Mais la plupart du temps, c'est Dieu, il fait ce qu'il veut. Il est souverain. Donc, il peut nous donner une autre vision à travers, justement, le processus que je vous ai expliqué. Parce que 12 disciples de Jésus, n'est-ce pas? Personne n'a eu sa vision à travers une révélation spectaculaire. N'est-ce pas? Leur appel, là, Dieu est allé voir l'autre, Pierre. Il était pêcheur. Il faisait son travail de pêcheur. Il a dit, viens et suis-moi. Et puis, c'est comme ça qu'il est parti. Ça n'a pas été spectaculaire. Où est-ce que je veux dire? Il faut qu'on fasse cet exercice de découvrir cette vision. Maintenant, notre vision peut venir de plusieurs sources. On a plusieurs sources. D'avoir la vision. Notre vision peut venir de des hommes. Des hommes. D'une manière générale, ça peut être la famille. Vous voyez quelqu'un qui est médecin. Son père est médecin. Il devient médecin. N'est-ce pas? Son père est pharmacien, il devient pharmacien. Son père est militaire, il devient militaire. Dans la famille. Donc ça peut être, la vision peut venir des hommes dans la famille. C'est une conviction divine, mais bon, ok, je dois faire ceci. Comme ma famille fait ça, je dois faire ceci. La vision aussi peut venir de la culture. Ce que nous avons souvent, mais ça c'est limité à notre environnement, notre culture. Parfois aux États-Unis, quand vous voyez la plupart des jeunes noirs veulent devenir des stars sportives. Parce que les talents les plus révélés des noirs aux États-Unis, c'était les sportifs. Les Michael Jordan, les Johnson, les Carl Lewis. Donc tout le monde veut devenir comme, ou des stars de cinéma comme Will Smith. Vous devenez des stars de cinéma. Ok? Notre vision aussi peut venir de la télévision. Il y en a qui passent, on a calculé parfois, il y en a qui passent la moitié de leur vie devant la télévision. Quand on calcule souvent pour certains, la moitié de votre séjour, si vous avez vécu 90 ans, 45 ans sont devant la télévision. Imaginez, en train de zapper. Là, c'est un automate. Une machine à zapper. On va à gauche, on a maintenant 75 chaînes, 122 chaînes. Donc on zappe, on zappe, on zappe, on zappe. Mon frère a expliqué son témoignage un jour. Il dit que le jour qu'il s'est rendu compte qu'il était esclave de la télévision, c'est qu'il est resté 24 heures devant la télévision. Il zappait. Il est en Belgique, il zappait. Jusqu'au lendemain, en train de zapper, il va prendre son truc, il vient manger ses frites, il regarde, il zappe. Il zappe, il regarde, il zappe. Il dit que ce jour-là, il a vendu sa télévision. Il a dit, ça vraiment, c'est trop maintenant. Hein? Vous savez, tout le temps qu'on passe devant la télévision, on peut passer du temps à lire. Une partie du temps à lire. La télévision, c'est bien, ça nous apprend certaines choses. Mais parfois, c'est beaucoup plus de divertissement qu'autre chose. Donc, il faut qu'on essaie de couper le temps de la télévision. Pour gagner du temps, vous allez voir. Les gars qui se plaignent, qui sont busy là. Ils sont occupés, et puis ils sont fatigués à la fin de la journée. Mais quand ils arrivent, la première chose qu'ils font, c'est d'allumer la télé. Tic! Il dit qu'il est fatigué. Hein? Il allume la télé, tic! Il se met dans son fauteuil avec sa télécommande. L'outil de prédilection de plusieurs personnes, c'est leur télécommande. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de chaînes maintenant et tout ça. On peut aussi avoir notre vision, même de Satan. Un exemple de la Bible. Dieu a dit à Adam et Ève, ne touchez pas au fruit de cet arbre. Qu'est-ce qui s'est passé? Le serpent est venu, le diable est venu à travers le serpent, il lui a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Le doute. Ensuite, en fait, Dieu ne veut pas que vous soyez comme lui. Il a implanté une vision. Ève a voulu devenir comme Dieu. C'était devenu sa vision. Un grand leader, Hitler. Hitler, c'est un grand leader, n'est-ce pas? C'est un grand leader. Parce que comment quelqu'un peut convaincre une population qu'une autre race est une race, je ne sais pas quoi, et que vous êtes la race aryenne, et qu'il faut éliminer. Mais la Deuxième Guerre mondiale est une catastrophe. Mais ça a été conduit par qui? Un leader qui a une vision, mais une vision qui vient de Satan. C'était une vision aussi. Isn't it? C'était une vision. Une vision qui vient de Satan. Donc, qu'on fasse attention à nos visions. Parce que si vous cherchez une vision, vous allez avoir la vision. Mais la vraie vision est celle qui vient de Dieu. Et celle pour qui, pourquoi vous avez été créé. Parce qu'avant que nous soyons dans le ventre de notre mère, Dieu savait déjà pourquoi nous avons été créés. Et donc c'est ça la vraie vision. Mais je vous le dis et je le répète. Tout le monde n'a pas sa vision par une révélation spectaculaire où il se retrouve à terre et après il dit waouh, j'ai eu ma vision. Non, Dieu nous parle de plusieurs manières, de manière aussi naturelle ou de manière surnaturelle. Et il y a des exercices que nous pouvons faire pour découvrir notre vision. Les exercices qu'on peut faire pour découvrir notre vision. Mais on doit vraiment être, cette vision doit être inspirée de Dieu. Parce que si la vision n'est pas inspirée de Dieu, ça veut dire que vous n'êtes pas dans votre vision. Et vous allez avoir peut-être du mal. Vous allez accomplir des choses, mais vous n'allez pas accomplir des choses au niveau de votre potentiel. Et vous avez une vraie vision, c'est quoi? Une vraie vision, c'est quelque chose pour laquelle vous êtes vraiment prêt à dédier votre vie. À vivre, mais aussi et surtout à mourir. Ça, c'est une vraie vision. Si vous n'êtes pas prêt à mourir pour quelque chose, c'est que ce n'est pas vraiment une vision. Je parle du point de vue personnel là. Après, on va voir la vision pour l'entreprise, pour l'organisation. En tant qu'individu, votre vision doit vous permettre, c'est quelque chose pour lequel vous êtes prêt à vivre. C'est-à-dire que vous voulez dédier votre vie, vous voulez faire ça vraiment. Vous avez cette volonté de faire ça. Et surtout, vous êtes capable de le faire si vous êtes payé et même si vous n'êtes pas payé. Vous êtes capable de le faire. Vous pouvez accepter de le faire, que vous ayez payé ou non. Ce n'est pas une question d'argent, votre vision. Ce n'est pas une question d'argent. Cette révélation-là n'est pas une question d'argent. Vous vous sentez et vous allez voir, quand vous regardez à Dieu, que vous regardez autour de vous, que vous regardez en vous, et que vous regardez autour de vous, vous allez découvrir quelque chose. Quelque chose qui fait en sorte que vous ne pouvez plus vous asseoir. Qui fait que vous avez envie de bouger, d'agir. Et vous allez voir en ce moment, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Il y a comme une loi d'attraction. Toutes les portes commencent à s'ouvrir. Les opportunités commencent à se présenter. Vous rencontrez quelqu'un et vous parle de quelque chose. Vous dites, ah, mais j'avais la même idée. Vous rencontrez un actionnaire potentiel. Vous rencontrez un collaborateur potentiel. Parce que vous savez où vous allez. Vous attirez comme un aimant, vous attirez les ressources qu'il faut pour atteindre. Parce que vous savez où vous allez. Vous avez focalisé sur quelque chose. Il y a un exemple intéressant dans la Bible pour l'histoire de Néhémie. Quand Néhémie a dit, le livre de Néhémie, pour ceux qui lisent la Bible, le livre de Néhémie est un livre fabuleux pour le leadership. Il a vu que les murs de Jérusalem étaient tombés. Il a ressenti quelque chose, une envie de reconstruire le mur. C'était vraiment sa vision. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié. Il a eu la conviction divine. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir le roi. Mais ce qui est fascinant que je voulais que vous voyez ici, quand il allait voir le roi, chaque fois que le roi lui a dit combien de jours tu vas faire, il a dit ça va faire tant de jours. De quoi tu as besoin? J'ai besoin de temps et de ça, de ça, de ça. Pourquoi? Il était prêt, il avait déjà son projet. Parfois, nous, on part même parfois demander quelque chose à quelqu'un. Il vous manque de l'argent pour faire quelque chose, vous partez pour demander, on vous dit, oui, tu as besoin de combien? Bon, en fait, ça dépend de tout ce que je gagne. C'est quoi ces histoires? Moi, il y a quelqu'un qui est dans mon bureau un jour, qu'elle cherche du travail. C'était une fille. Je cherche du travail. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu sais faire? Non, tout travail que je gagne. J'ai dit, mais... Ok, repartez. Quand vous allez trouver ce que vous savez faire, revenez me voir. C'est ce que je lui ai dit. Comment tu peux dire, je cherche n'importe quel travail? C'est comme ça alors que tu vas faire n'importe comment, n'importe quel travail. Parce que tu ne sais pas vraiment. Beaucoup de gens cherchent du travail, ils ne savent pas vraiment quel type de travail ils vont avoir à faire. Moi, souvent, je dis aux gens, je forme des jeunes, comme je vous ai dit à l'université, je leur dis, quand vous allez quitter l'université, que vous cherchez du travail, quand vous allez aller aux interviews, il faut que vous évaluez l'entreprise pour savoir si elle est digne pour que vous travaillez pour elle. N'est-ce pas? Vous ne devez pas simplement être évalué. Vous aussi, vous devez évaluer l'entreprise pour savoir est-ce que c'est une entreprise qui est digne de recevoir votre compétence. Est-ce que c'est une entreprise dans laquelle vous allez vous épanouir? Vous savez, quand vous avez cette attitude, les gens vont sentir self-confidence en vous. Ils vont dire, cette personne-là, il me la faut. Parce que les gens, ils achètent des compétences. Vous ne partez pas mendier le travail, vous partez vendre votre compétence. Comme le public est varié, je donne quelques exemples aussi pour les chercheurs d'emploi et tout ça. Permettez-moi de le faire, d'accord? Évaluez l'entreprise pour savoir si elle est digne de vous recevoir. Si elle n'est pas digne, vous dites, bon, Thank you. Bye bye. Je continue ma route et ma recherche. Je continue ma quête. J'ai eu une interview comme ça un jour. J'étais à Zine. Il cherchait un responsable formation, département formation. Et j'ai postulé. C'était il y a 3 ans. Et j'aime voyager. J'étais déjà consultant, j'ai commencé à voyager dans la sous-région. Donc je leur demande, est-ce que le poste là, on va voyager? Ils me disent, ah, c'est un poste local, quand tu es là, c'est ici au Burkina, à Ouagadougou. Je dis, ah, ok. Quand ils m'ont demandé ma prétention salariale, j'ai dit que je voulais 2 000 $. Alors que je savais que le poste ne s'approchait pas de 2 000 $. Ils ne m'ont pas appelé, bien sûr. Ce qui ne m'a pas inquiété. Alors, je vais vous demander de faire un petit exercice. Faites un petit exercice aussi pour essayer de voir. Vous allez le faire à la maison, mais notez ça pour le faire. Moi, vous savez, il faut faire la liste des 30 choses que vous voulez faire avant de mourir. Parce que le jour de votre mort, c'est le final destination sur cette terre. N'est-ce pas? C'est la destination finale sur cette terre. Alors, essayez de faire la liste des 30 choses que vous voulez faire avant de mourir. C'est un exercice passionnant. Parce que vous allez découvrir ce que vous voulez vraiment, en fait. Parce que parfois, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut. On dit qu'on veut être heureux. Mais c'est quoi heureux? Parce que heureux pour toi n'est pas heureux pour moi. Je ne sais pas. Est-ce que heureux, c'est avoir des enfants? C'est avoir 5 enfants? C'est avoir 10 enfants? C'est avoir 2 enfants? C'est quoi heureux? Est-ce que je ne sais pas, c'est créer une entreprise, c'est travailler pour quelqu'un, c'est être performant dans une église, c'est avoir ma contribution dans une église? Je ne sais pas. C'est quoi être heureux? Parfois, on est vague dans nos souhaits. Alors, j'aimerais que vous fassiez la liste des 30 choses que vous voulez faire avant de mourir. Des 30 choses que vous voulez avoir avant de mourir. Des 30 choses que vous voulez être avant de mourir. Hein? Je veux être un agent marketing. Ensuite, je veux être un consultant formateur en marketing. Je veux être un créateur d'entreprise. Je veux être un leader d'opinion. Je veux être un ministre. Je veux même être un président. Je veux être président. Ça se planifie. Vous savez, Barack Obama a planifié bien avant pour être président. Il n'a pas été président au hasard. Hein, ça a pris des années. Il a planifié ça. Il a défini la direction avant de commencer à se mettre en marche. Il a écrit son livre pour tester sa popularité. Un an avant, il a fait le tour des États-Unis avec son livre pour se faire connaître. Si tout a été planifié, il avait une stratégie. Il ne s'est pas levé comme ça et puis il s'est retrouvé pouf, président. Ce n'est pas possible. Je vous ai dit et je le répète, le succès et puis le hasard sont parallèles et en sens opposé. Peuvent jamais se rencontrer, même pas se regarder. Essayez de faire ça. Moi, je fais la liste. Je fais une liste de 99. Je suis tombé sur 99. 99 choses que je veux faire avant de mourir. Oui, une question là. Le micro, s'il vous plaît, une question. N'hésitez pas, on va le faire interactif. S'il y a une question.
Ok.
Le nombre importe peu. J'ai voulu mettre un nombre qui soit vraiment le maximum possible. Bon, pas le maximum possible, qui soit en tout cas suffisamment beaucoup et pas trop et pas peu. Hein? Parce que quand même une vie c'est long. Je pense que 30 qu'on veut avoir et faire et être, ça fait 90 au total. Bon, 90, je pensais que 90, ça va. Non, il n'y a pas de raison. Franchement, il n'y a pas de raison. C'est, comment il s'appelle? Jack Canfield. Malheureusement, je n'ai pas de tableau, sinon j'allais vous écrire. Jack Canfield, il a écrit un livre qui s'appelle Les Principes du Succès. Success Principle. Non, en français, c'est Le Succès selon Jack. C'est lui qui a proposé ça, cet exercice-là. Jack Canfield, il s'appelle. D'ailleurs, dans le même livre, il dit de faire la liste de 101 objectifs. Il dit 101, c'est symbolique pour dire 100 et plus, 101 objectifs que vous voulez réaliser dans la vie. Vous pouvez le faire aussi. Ça peut dépasser, parce que moi j'ai fait 99, donc ça veut dire que ça dépassait ça. Mais essayez de faire jusqu'à 99. L'exercice c'est quoi? Quand vous commencez à faire, vous allez vous rendre compte que vous allez dépasser même les 30. Mais au début, il y en a qui disent, oh, 30 quand même, c'est trop. Ils sont en train de se dire. N'est-ce pas? Quand je vois les visages, je dis 30, c'est trop. Mais une vie, c'est long. N'est-ce pas? Oui? Oui, c'est une seconde aussi en même temps. Hein? 30, c'est pas beaucoup, vous allez voir. Non, et quand vous allez faire la liste des 30, vous allez dire si c'est passionnant. Ne faites pas la liste. Ne faites pas la liste. Ok, une question là. Une minute, je dis ça et puis on va prendre une question. Ne faites pas la liste en pensant à vos moyens actuels. Faites la liste là. En vous disant que vous avez toutes les ressources à votre disposition. Faites la liste comme ça. Soyez, pour une fois, irréaliste. Et la liste là, voilà la formulation. Je vous donne la formulation. Je veux. Ne dites pas j'aimerais, je voudrais, je veux avoir une maison aux Bahamas. Je veux avoir un jet privé. Je veux avoir, je ne sais pas, pas une voiture. Hein. Quand vous dites je veux avoir une voiture, précisez la marque, la couleur même de la voiture. Il faut, non, vous savez, quand votre souhait n'est pas précis, c'est un vœu pieux. Même quand vous priez là, parfois on prie en disant à Dieu, vraiment Dieu, aide-moi à être heureux. Mais vraiment, Dieu déjà, il veut que tu sois heureux. Moi, je ne vois pas, qu'est-ce que tu demandes alors à Dieu? C'est fini. Tu pries pour quelque chose que tu as déjà. Puisque Dieu veut que tu sois heureux. Bon, aide-moi à être heureux, c'est quoi? Bon, Dieu veut, point. Mais heureux là, il faut que tu précises, ça consiste en quoi? Donc vous dites, je veux. Moi, j'ai dit que je veux être un consultant formateur qui est payé à 1000 dollars par heure et par jour en 2010. J'ai mis ce je veux là. Je veux être payé à 1000 dollars par jour en 2010. Ça, c'était un de mes souhaits, un de mes objectifs, un de mes I want. Je veux. Ok, ça c'est bien. Maintenant, pour être payé à 1000 dollars, il faut que je fasse des choses. Il faut que quand je veux parler aux gens, les gens puissent dire, waouh, ça vaut quand même 1000 dollars. N'est-ce pas? Donc, ça veut dire qu'il faut que je me prépare. Et pour me préparer, je me suis dit, bon, voilà ce que je dois faire. Il y a des choses que je dois étudier. Je dois lire un livre par jour dans le domaine qui m'intéresse. Et un livre par mois. Dans le domaine qui m'intéresse. Et pour faire ça, il faut que je fasse par jour. Et je me suis dit aussi que je dois être un consultant bilingue. Alors, j'ai décidé que tout va être désormais en anglais, que mes inputs seront en anglais, tous les livres que j'achète en anglais, mon ordinateur en anglais, mon téléphone en anglais, la chaîne de télévision que je regarde en anglais, la radio que j'écoute en anglais. Ça, ça vient de I want. J'ai dit, je veux être un consultant bilingue en français et anglais. Je veux maîtriser, je veux être capable d'animer un séminaire en anglais. Bon, donc le je veux là, c'est bien d'avoir un je veux, mais il faut avoir derrière, qu'est-ce que tu vas faire pour atteindre le je veux. Mais pour le moment, quand je vous dis de faire ça, faites cela sans penser à vos capacités, à vos machins. Dites seulement je veux. De manière précise. En fait, c'est votre, vous devez exprimer votre souhait. Ça, c'est I want. I want list. Ça va révolutionner votre vie. Aussi bien pour votre famille. Je veux avoir une famille unie. Ça veut dire qu'il faut que je renoue le contact, par exemple, avec mon frère, avec qui on se parle pas depuis longtemps. Moi, j'ai dit, je veux avoir de l'impact. Je veux avoir de l'impact dans ma génération. J'ai décidé alors de faire des séminaires pour des jeunes, de faire des séminaires pour des étudiants, pour même des enfants. Donc, si vous savez ce que vous voulez, vous allez voir comment, de quelle manière vous pouvez atteindre ces objectifs-là. Mais il faut d'abord dire, je veux. Vous voulez avoir de meilleures relations avec vos amis. Faut peut-être organiser un barbecue une fois par mois pour vous rencontrer. Pourquoi pas? Je veux. I want. Vous voulez construire une maison aux Bahamas? Il faut que vous appreniez à épargner. Après, c'est ça qui est derrière. Je veux. Il faut que vous appreniez à épargner. Vous voulez vous marier à 25 ans ou à 26 ans? Il faut commencer à regarder autour de vous. Si vous ne regardez pas, comment vous allez voir? Oui, il y a des gens, je dis ça, je connais l'exemple d'un de mes amis qui n'a pas regardé autour de lui, qui a passé son temps à travailler. Il travaillait, il va le matin au boulot, il revient à 21h. Il travaillait, il ne regardait pas autour de lui. Il était surpris de se retrouver à un certain âge. Il n'est pas marié. C'est ça. Ça doit être un objectif, un target. De sorte que vous commencez maintenant à agir pour atteindre le target. C'est comme ça. Sinon, vous allez travailler, travailler. Parce que ça, c'est le work alcoolique. Il va travailler, travailler toute sa vie. Il se rend compte d'un certain âge. Et finalement, on dirait que j'ai manqué un tournant là. Vous fixez le but, vous fixez le but par la planification, mais vous atteignez l'objectif par la persévérance et la mise en œuvre d'action pour atteindre le but. Fixer le but, c'est bien, mais vous ne pouvez pas l'atteindre seulement après l'avoir seulement fixé. Il faut agir. Et c'est pour ça que c'est important que l'objectif soit exaltant et récompensant, parce que ça va motiver votre action. Excusez-moi, vous vouliez dire quelque chose? Vraiment, je vous avais oublié. Ok? Donc, smarter. Et j'aime bien smarter parce que ça dit que c'est plus smart que smart. Hein? C'est smarter. Exaltant. Exaltant. Je n'insiste pas sur le reste parce que vous le savez déjà. Spécifique, c'est clair. Hein? C'est comme ce que je vous ai dit. Si vous voulez une voiture, dites laquelle voiture. Hein? D'accord? Même votre femme ou votre mari, ça doit être spécifique. N'est-ce pas? Ça doit être spécifique. Ça ne peut pas être une femme quelconque ou un homme quelconque. Ça doit être spécifique. Maintenant, comment ça va être mesurable, ça, je ne sais pas. Alors, next. Il y a des habitudes pour être efficace. Développer, les 7 habitudes ont été développées par un consultant qui s'appelle Stephen Covey. Stephen Covey. Stephen R. Covey. Il a écrit un livre qui... ou dit les 7 habitudes des personnes qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Je vous conseille ce livre vraiment. Les 7 habitudes des personnes qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Stephen Covey. Covey, c'est Stephen. Stephen, ça c'est facile. Covey, c'est C-O-V-E-Y. Stephen Covey. Les 7 habitudes. Ou ce que je fais, je vous fais une bibliographie. D'accord? Je pense que c'est mieux. J'ai beaucoup de livres à vous conseiller. Je vous fais une bibliographie. Hein? Parce que c'est vraiment bon de continuer. Vous voyez, il y a une manière de côtoyer les gens qui ont réussi, c'est de lire leur bibliographie. Leur biographie, qu'est-ce que je raconte? De côtoyer les gens qui ont réussi, vous lisez leur biographie. Hein, un Barack Obama, vous lisez sa biographie. Dream from my father. Hein, vous lisez ces livres-là. Il y a John C. Maxwell qui est un auteur que j'aime bien, John C. Maxwell, un auteur chrétien qui écrit vraiment des livres sur le leadership, sur comment, sur le succès. Il y a Roadmap for Success, c'est lui qui a écrit ça. Donc, je vous conseille une bibliographie, au moins une dizaine de livres hein, que je vous conseille, qui m'ont inspiré pour ces modules et qui pourront vous être vraiment très, très utiles. Donc, c'est Stephen Covey qui a déterminé ça, ce n'est pas moi. Stephen Covey, il a dit, il y a 7 habitudes, mais dans ce module de leadership personnel, je vais vous parler de 3 premières habitudes. La première, c'est soyons proactifs. Soyez proactifs. Il dit, c'est la proactivité. Et la deuxième habitude, c'est sachez dès le départ où vous allez. Et la troisième habitude, c'est donner la priorité aux priorités. Alors, c'est quoi la proactivité? Vous savez, il y a ce qu'on appelle actif. Quand quelqu'un qui est actif. Il y a aussi le réactif. L'actif, c'est quelqu'un qui bouge, qui agit. Le réactif, c'est quelqu'un qui fait quoi? Qui réagit. Mais qui réagit, oui, réactif, c'est quelqu'un qui réagit. C'est la même chose. Donc, le réactif, c'est quelqu'un qui fait quoi? Qui agit. Et une fois qu'il y a eu une première action, il réagit. D'accord? Ça, c'est le réactif. Donc, il y a une rétroaction. Lui, c'est un retour qu'il agit. Ça, c'est le réactif. Mais Stéphane Covey dit qu'il faut être proactif. Ça, c'est quoi alors? Proactif. Agir en premier. Anticiper. J'ai entendu un mot anticiper. C'est ça. L'exemple le plus simple pour expliquer la proactivité, c'est dans la circulation. Vous circulez. Vous voyez un groupe de jeunes enfants qui sont sur la voie. Ils sont en train de marcher. Vous êtes à 80 à l'heure. Qu'est-ce que vous faites si vous êtes proactif? Vous décélérez. Vous ralentissez. Parce que vous vous dites, ces enfants, on ne sait jamais. Peut-être qu'ils peuvent venir sur la route à un moment ou un autre. D'accord? Imprudemment. Donc, vous réagissez en étant proactif. Vous soulevez votre pied de la pédale. Vous décélérez. Quand vous passez, vous recommencez à accélérer. Ça, c'est être proactif. Par contre, d'autres personnes, notamment les bus et les taxis, et ils disent que, de toute façon, c'est sûr qu'il ne va pas venir sur la route. Il continue à 80 à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Un enfant vient sur la route, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il réagit. Il donne un coup de volant, il se retrouve dans un mur, dans un fossé ou dans une autre voiture. Ça, c'est le réactif. Vous voyez? Quand on réagit, on n'a pas le temps, on n'est pas réfléchi et on n'est pas efficace. Et quand on est proactif, on anticipe, on analyse et on a le comportement adéquat. Et surtout, on a le comportement dans le calme et la sérénité. Parce qu'on a été proactif, parce qu'on a anticipé, parce qu'on n'a pas laissé les choses nous arriver naturellement comme elles viennent. Il y en a qui agissent dans leur vie en FIFO. Vous connaissez FIFO, non? Ceux qui ont fait gestion de stock. First in, first out. Il y en a qui agissent dans leur vie en FIFO. Ce qui vient, je fais. Ce qui vient, je fais. First in, first out. First in, first out. Votre vie n'est pas en FIFO. Il faut être proactif. Il faut anticiper. Anticiper. Mais on va détailler ça, la proactivité. J'ai prévu des choses pour détailler ça. Je vous explique seulement vaguement et ensuite on va détailler. Alors, sachez dès le départ où vous voulez aller. Ça, on l'a expliqué dès le début. C'est la définition de la vision, de l'objectif. Il faut savoir où je vais avant de commencer à bouger. Donc, je ne vais pas insister dessus. Ensuite, donner la priorité aux priorités. Ça, je vais vous donner aussi un exemple pour bien vous expliquer ça. Donner la priorité aux priorités. Très souvent, on entend souvent des gens dire « Tout est prioritaire. » Oui, tout est prioritaire. C'est pour se donner le prétexte de ne rien faire, de tout est prioritaire. Et à la fin de la journée, bizarrement, dans tout ce qui était prioritaire là, on n'a même pas réalisé une seule chose. N'est-ce pas? On dit au début de la journée que tout est prioritaire. Mais bizarrement, à la fin de la journée, tout étant prioritaire, à la fin, on n'a même pas réalisé une seule parmi elles qui était prioritaire. Manque d'organisation et d'efficience personnelle. Donc, les trois habitudes qui nous permettront d'atteindre l'efficacité personnelle, c'est-à-dire l'indépendance, ce sont ces trois-là. La proactivité, savoir dès le départ où nous voulons aller, et donner la priorité aux priorités. Mais avant cela, je vais vous expliquer un principe qu'il a détaillé avant d'arriver dans ces habitudes-là. C'est le principe de la dépendance à l'indépendance et de l'indépendance à l'interdépendance. C'est quoi l'indépendance? L'indépendance, c'est, quand on parle de l'indépendance d'un peuple ou d'un pays, c'est l'autodétermination d'un peuple. C'est ça? L'autodétermination d'un peuple à faire ce qu'il veut. Autodétermination. Donc, le peuple décide de faire ce qu'il veut. Un exemple très simple, le Burundi en 1950, même pas en 1960, ne pouvait pas décider de prendre une indépendance et de recevoir une capitale iranienne. Une ambassade iranienne. Est-ce que le Burundi pouvait décider en 1960 d'accueillir une ambassade iranienne? Mais à partir de 62, à partir du 1er juillet, dès le 2 juillet, elle pouvait accepter, théoriquement, toutes choses étant égales par ailleurs, elle pouvait accepter une ambassade même de Cuba. Alors qu'à l'époque, c'était quand même chaud. C'était Est-Ouest. Mais ils pouvaient accepter, théoriquement. Ils pouvaient choisir entre Israël et Palestine. Parce qu'elle est devenue indépendante. Alors, vous savez, mais quand le Burundi a été indépendant, est-ce que le Burundi a cessé toute coopération avec tous les autres États? Non. Parce que justement, il ne suffit pas d'atteindre l'indépendance, il faut rechercher l'interdépendance. Ça veut dire collaborer avec d'autres pays. Avec d'autres peuples, il en est de même pour un individu. Avant de pouvoir collaborer avec d'autres personnes, il faut que vous soyez indépendant. Parce que l'interdépendance ne peut être réalisée que par quelqu'un d'indépendant. Le Burundi étant indépendant peut choisir de collaborer avec qui il veut. Donc, si vous n'êtes pas indépendant, vous ne pouvez pas être interdépendant. Si vous n'êtes pas indépendant, votre interdépendance serait une dépendance. Et c'est comme ça que nous sommes dépendants. Dépendants de la politique, dépendants de certains leaders, dépendants de notre pasteur, dépendants, on est dépendants. Parce qu'on n'a pas recherché l'indépendance. Et on est rentré en interdépendance, qui s'est transformée en dépendance. Quand vous êtes dans une position de leadership qui vous a été gracieusement offerte, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est oui, monsieur. Yes, sir. Yes, sir. C'est tout ce que vous pouvez faire. Mais si vous êtes arrivé dans une position de leadership, par votre indépendance, par votre capacité, votre compétence, et que vous savez que c'est la grâce de Dieu qui vous a mis là, vous êtes indépendant. Comprenez-moi bien, l'indépendance, ce n'est pas l'arrogance. L'indépendance, c'est la capacité à s'autodéterminer, à savoir qu'est-ce qui est bien pour moi, à connaître une vision, à connaître la vision pour ma propre vie, à savoir que je vais là, de sorte que quand on va me dire, va à gauche, je dis, pourquoi j'irai à gauche? Moi, je sais que je dois aller à droite. Je sais que c'est là mon travail. Mais si on vous dit, va à gauche, je vais à gauche. Pardon, à gauche, c'est là. Va à gauche, je vais à gauche. Va à droite, je vais à droite. Arrête-toi, je m'arrête. Saute, je saute. Couche-toi, je me couche. Où est mon indépendance? Il faut que je questionne mes actions. C'est ça l'indépendance. La recherche de l'indépendance, c'est ça. Donc, l'indépendance, en d'autres termes, c'est la victoire sur soi-même. Parce que si vous ne savez pas qu'est-ce qui est bien pour vous, personne d'autre ne peut le savoir. C'est vous qui savez ce qui est bien pour vous. Il faut prendre le temps de réfléchir à ça. Qu'est-ce que vous voulez dans la vie? Qu'est-ce que vous recherchez? Qu'est-ce qui a de la valeur pour vous? Vous, votre famille, votre quartier, votre pays, votre continent. Qu'est-ce qui est bien? En quoi est-ce que vous voulez qu'on se souvienne de vous? Les I want list là. J'ai dit avant de mourir. Ça veut dire de quoi on va se rappeler de vous? Rappelez-vous d'une chose, hein. On ne se souviendra jamais de ce que vous avez pris. On se souviendra de ce que vous avez donné. On se souviendra de ce que vous avez donné. Parce que quand vous donnez, vous avez fait la différence dans la vie de quelqu'un. Quand vous donnez, vous avez fait la différence dans la vie de quelqu'un. On se souviendra de vous pour ce que vous avez donné, pour ce que vous avez apporté dans la vie des autres. C'est pour ça que je dis, la plus grande valeur, ou le leadership qui a plus de valeur, c'est le leadership qui sert, qui donne, qui partage. C'est le servant leadership. Ça a été défini par Greenleaf. Robert Greenleaf. Il a défini ce qu'on appelle le servant leadership, le leadership de service. Le servant leadership. C'est le leadership qui... Laissez-moi prendre le temps de vous expliquer ça en détail. Le leadership de service. En fait, c'est Robert Greenleaf qui l'a exposé au monde, mais c'était bien avant lui, comme je l'ai dit, dans la Bible. Si je reprends l'exemple de Jacques et Jean, fils de Zébédée, Jésus leur a dit, si vous voulez être le plus grand, soyez au service des autres. Et Jésus croyait qu'ils avaient compris. Mais si vous vous rappelez de l'histoire du dernier dîner, du dernier souper, Jésus est arrivé, ils sont arrivés le soir, après avoir marché pendant longtemps, et dans la culture juive, quand vous arrivez dans la maison de quelqu'un, il y a un serviteur qui vous lave vos pieds, n'est-ce pas? Qui vous lave vos pieds, parce que bon, les gens, ils marchaient à l'époque, et puis c'était à pied, ils étaient fatigués, ils lavaient les pieds. Et alors, il y a une histoire qui raconte que Jésus est arrivé trouver que tous les disciples étaient assis et personne n'a lavé les pieds, n'est-ce pas? Il est venu trouver, personne n'a lavé les pieds. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé lui-même. Il a lavé les pieds de chacun de ses disciples pour leur montrer que s'il y a quelque chose qu'il veut leur laisser, s'il y a une dernière leçon qu'il veut leur enseigner avant de mourir, c'est l'esprit de service. C'est l'esprit de service. On va le voir plus tard. Ça ne veut pas dire que vous vous diminuez. C'est l'humilité. C'est pas vous sous-estimer, mais c'est vous humilier. Parce que un leader ne se sous-estime pas. Au contraire, la qualité d'un leader, c'est la self-confidence. Jésus a dit, on a une fois demandé à Jésus, quel est le plus grand des commandements? Qu'est-ce qu'il a dit? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Il a dit, c'est le premier. Et il a dit, ensuite, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce qui veut dire que le degré d'amour que vous avez pour vous, c'est le degré d'amour que vous avez pour votre prochain. Donc, la première personne à aimer, c'est vous. Pour que, avec autant d'amour, vous puissiez aimer les autres. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas se sous-estimer. Il faut se valoriser au contraire. Mais il faut savoir être humble. On va le voir dans les qualités d'un bon leader. En attendant, je poursuis avec la proactivité. Next. Alors, dans la proactivité, il faut comprendre que ça, c'est contraire à la réactivité, comme je vous ai expliqué. Mais dans le langage des gens, vous pouvez savoir s'ils sont proactifs ou s'ils sont réactifs. Dans le langage des gens. Alors, le réactif, il dit, il n'y a rien que je puisse faire. Le proactif, il dit, quelles sont les options? Quelles sont les alternatives? Le réactif, il dit, c'est comme cela que je suis. Je suis né comme ça. Ah, nous les gens de Gozi, c'est comme ça. Hein? Nous les gens de Ngozi, c'est comme ça. Nous les gens de Bururi, c'est comme ça. Nous les gens de Kirundo, c'est comme ça. Voilà. Oui. Parce que moi, je viens de Ngozi, colline Mureke. Alors, il dit, c'est comme ça que je suis. Hein? On peut dire, je peux choisir une approche différente. Pourquoi? Ça, c'est la perception de vous-même. Vous percevez en disant, c'est comme ça que je suis incapable. Hein? Il y a des gens qui ont convaincu, ah, les gens de petite taille, là, ils sont comme ça. Hein? Et ils se sont convaincus eux-mêmes qu'ils sont comme ça. Et les gens de grande taille, là, ils sont comme ça. Ils se sont convaincus eux-mêmes qu'ils sont comme ça. Oh non, non, non. Il n'y a pas de c'est comme ça que je suis. Ou dit, ça me rend malade. Ça veut dire le comportement ou la réaction de quelqu'un m'énerve. Il faut dire, je contrôle mes propres sentiments. Nobody can hurt you without your permission. N'est-ce pas? Personne ne peut vous énerver et vous faire mal sans que vous l'autorisez à vous faire mal. Je contrôle mes sentiments. Et attention, je ne vous dis pas que c'est facile à faire. C'est un exercice. C'est un exercice pour y parvenir. Mais c'est possible d'y parvenir. Je vous ai dit, on a ce potentiel. Il faut l'amener à maturité. Et je peux vous donner mon propre exemple. Moi, j'ai décidé que désormais, dans la circulation, personne ne va me faire mal. Je vous ai expliqué ça? Ou je ne vous ai pas expliqué ça? Vous savez, je fais plusieurs formations à la fois. Je suis à EcoBank, donc parfois je crois que c'est la même histoire que je raconte. Alors, je me suis rendu compte que quand je me lève le matin pour aller au travail, que ce soit au Burkina ou au Burundi, le temps que j'arrive au travail, j'arrivais énervé. Énervé par la circulation. On s'insulte dans la circulation. Oui, pourquoi tu circules comme ça? Tu ne vois pas, non? Tu es aveugle ou quoi? Ça, c'est encore quand on est poli. Et finalement, tu arrives au bureau fatigué, énervé déjà. Et si ta secrétaire ne sourit pas, c'est un problème. Tu dis, qu'est-ce que tu me veux, toi? Rassurez-vous, je n'étais pas comme ça. Alors, donc, je me suis dit, attends, je vais changer quelque chose. Je vais décider moi-même d'être zen et cool dans la circulation. Désormais, si vous êtes en voiture avec moi, vous allez le remarquer. À Bujumbura, ici, quand je circule, si je vois un piéton, je m'arrête et je me dis à moi-même, je suis gentil, je laisse les gens passer. Et quand ils passent, ils me font comme ça. Et puis je leur fais comme ça. Et puis j'entends souvent, Morakos. Et puis je continue à circuler. Quand je vois quelqu'un qui veut passer, je le laisse passer. Quand je vois quelqu'un qui circule mal, je fais comme ça. Toi aussi. Et puis on circule. Parfois il fait comme ça. Et puis on circule, je continue. J'ai décidé de ne plus être désagréable et de ne pas me laisser influencer par les insultes des gens et la circulation. Vous voyez? Parce que c'est outside, c'est pas inside. En moi-même, j'ai cette capacité. Mais je ne vous dis pas que ça a été facile. Parce qu'à chaque fois, je suis prêt à dire, tu ne vois pas. Après, je me dis, non, calme-toi, tu es gentil. Je laisse passer les gens. Et il y a une récompense. Les gens, ils te remercient, ils te saluent. Ce n'est pas mieux que de s'insulter. Mieux vaut échanger des sentiments comme ça, de bons sentiments comme ça, que d'échanger des injures. Ils entendent. Et ça, c'est un choix. Un choix de qui? Mon choix, pas le choix des autres. Et ce qui est fabuleux dans cette histoire, c'est que quand vous souriez à quelqu'un, la personne est obligée de vous sourire en retour. Vous voyez? Elle est obligée, elle n'a pas le choix. C'est comme ça. C'est l'homme qui est comme ça. Quand vous souriez à quelqu'un, la personne est obligée de sourire en retour. Avant de se rendre compte même, il sourit. Donc, parce que votre enthousiasme est contagieux. Si vous êtes convaincu de ça, vous allez transformer votre entourage. Je suis obligé. Si vous êtes aimable avec les gens, ils seront obligés d'être en retour d'être aimables. Ils seront obligés, mais il y en a qui vont résister. Mais ce n'est pas grave. Il y en a qui vont résister. Ce n'est pas grave. Alors, donc, au lieu de dire ça me rend malade, la circulation m'énerve, quand vous dites ça, est-ce que ça change la situation? Il faut agir pour changer la situation de vous-même. Donc, j'ai décidé. Ça faisait partie des choses que je voulais contrôler. Et puis, c'est un exercice de maîtrise de soi. C'est un exercice de maîtrise de soi. Vous contrôlez ça. Et au fur et à mesure que vous dites, non, je suis gentil, je ne fais pas ça, je n'insulte pas les gens en circulation, je ne m'énerve pas en circulation, vous allez finir, ça va être dans votre habitude et dans votre nature. Donc, vous voyez que les histoires de non, je suis né comme ça, ça ne marche pas. Ce n'est pas vrai. Je suis né comme ça, comment je suis né comme ça? Non, il y a quelqu'un qui m'a dit dans une formation, je faisais une formation sur l'accueil, je disais qu'il faut sourire. Il me dit, non, moi je suis né, je ne sais pas sourire. Je dis, ah bon? Dieu merci, à la fin de cette formation, généralement à la fin des formations, je demande aux gens de prendre des engagements. Elle a écrit son engagement, elle a dit, je m'engage à désormais sourire avec tous les clients que je rencontre. Je dis, vraiment, Dieu merci, que Dieu fasse que je puisse sourire désormais. Parce qu'en fait, ça va amener de la lumière dans sa vie, à elle-même. C'était une dame, de pouvoir sourire aux gens. Hein? Ça donne une petite fenêtre quand même de gaieté et de bonheur. Ils ne me le permettront pas. Ils ne me le permettront pas. Et le il là, parfois ce sont les hommes, parfois c'est même Satan, on accuse tellement Satan. Hein? J'ai un ami qui plaisantait un jour, qui dit qu'il a fait un rêve, il a vu Satan qui pleurait. Et Satan a pleuré, puis il dit, je lui demande pourquoi il pleurait. Il dit que lui aussi lui a demandé, pourquoi tu pleures? Il dit, les hommes m'accusent trop. Il y a des choses que je ne fais pas, et ils disent que c'est moi. Parfois on accuse trop Satan, n'est-ce pas? Et parfois on met même dans le « il », il y a même Dieu. Parfois on met Dieu dans le « il » aussi. Dieu ne me permettra pas. C'est ce qu'on dit quand la dame a relevé justement ça, quand les chrétiens disent que on ne peut pas servir Dieu et faire les affaires. C'est ça, en fait, Dieu ne me permettra pas de faire les affaires en le suivant. Puisqu'il a dit, il faut choisir de servir l'argent ou servir Dieu. Et c'est ce qu'on cite, n'est-ce pas? Ce qui est bien, c'est que la Bible est complète. Complète. Tout ce que tu trouves dedans qui semble contradictoire, en fait, ce n'est pas contradictoire. Si tu demandes l'inspiration de Dieu pour la comprendre, tu vas comprendre selon le cœur de Dieu, la Bible. Seulement nous, les hommes, c'est facile. Quand on veut servir nos propres causes, on prend les affaires, ce qui est dans la Bible et puis on dit, c'est Dieu qui a dit. Un texte sans son contexte n'est qu'un prétexte pour créer une secte. Si on enlève le texte de son contexte, on crée un prétexte pour créer une secte. Donc la Bible est complète. Il n'y a rien de contradictoire. C'est cohérent. Et ça se tient. Donc, ils ne me permettront pas. Dans le « ils ne me permettront pas » là, on met tout le monde. On met les hommes, on met la famille, on met Satan, on met même Dieu. Ils ne me le permettront pas. Je peux élaborer une présentation Hop, c'est à mon avantage ici. Hein, c'est une erreur. À mon avantage. D'accord? J'aimerais vous expliquer une chose avant de poursuivre. C'est qu'on a dans notre vie des stimuli et nous avons une certaine liberté de choisir entre les stimuli et les réponses. Ah, il est 32. Ok, un bon leader doit savoir respecter le temps.